sur le grill d'Écotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Bonne écoute! Quelle est l'histoire de la cuisine libanaise? Est-ce que cette cuisine, elle a beaucoup évolué au fil du temps?
Il n'y a rien qui n'évolue pas. Donc, ce qui n'évolue pas, c'est une pierre ou quelque chose de mort. Mais si c'est quelque chose de vivant, bien sûr que ça évolue. J'ai 54 ans aujourd'hui et je me rappelle que dans le temps, quand on mangeait des pâtisseries orientales, il y avait du sucre. Aujourd'hui, il y a 4 fois moins de sucre peut-être, par exemple, ou de gras, ou déjà dans ça. On mangeait jamais de poisson cru, jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui, on mange du poisson cru dans un restaurant libanais, quoi, hein, à la japonaise. Par exemple, chez nous, on mange dans toutes les traditions orientales. Et quand on parle de Levant, c'est les mêmes traditions, que ce soit chrétien, musulman et juif, c'est les mêmes traditions. Donc, on mange pas de, on déteste la viande saignante, par exemple. On mange du cru ou du cuit, mais pas un truc entre les deux. Donc aujourd'hui, ça commence à changer, bien sûr. Donc toutes ces choses-là, je me rappelle quand j'étais enfant, on n'avait jamais entendu de la sauce soja, par exemple. Mais à un moment, ma mère ajoutait, après un moment, quand on a connu ça, ma mère ajoutait ça à un plat très typique qui est le koussamer chez les courgettes farcies. Donc c'est un plat très typique, très libanais, mais elle trouvait que ça relevait le plat, donc elle ajoutait ça à ce plat-là. Donc il n'y a rien qui ne change pas, bien sûr.
Oui, les tendances, évidemment, et puis la multiculturalité, la découverte des autres cuisines qui influencent
oui, absolument.
La cuisine libanaise. Je voudrais parler éco-responsabilité. Est-ce que tu dirais que la cuisine libanaise, c'est une cuisine éco-responsable?
Je peux dire non.
Tu peux dire non, évidemment, je veux ton vrai avis.
Je pense que toute cuisine est responsable. Et pour moi, il n'y a pas de éco-responsable. C'est responsable. On est responsable ou pas. On ne peut pas être responsable envers l'environnement et ne pas être responsable envers de l'humain, par exemple, ou de l'animal, ou de toute cuisine traditionnelle est super responsable par précarité, tout simplement. Ouais. Quand tu tues un animal, tu sais, tu ne vas pas aller chez Picard ou on achète de la viande, pas chez Picard, peut-être dans un supermarché, acheter une tonne de viande. Ça t'a coûté tellement cher d'élever cet agneau ou cette vache ou ce poulet que tu dois le manger. Maintenant, on a découvert une chose extraordinaire, tu sais, c'est from nose to tail, comment on dit en français.
De la fourche à la fourchette, non?
Non, c'est manger tout l'animal.
Ah oui, d'accord, oui.
C'est pas une invention, hein. C'est tout simplement, c'est que ça coûte tellement cher, ça t'a coûté en temps, en énergie, en argent aussi, tellement cher d'élever une poule ou un veau ou un agneau que tu dois le manger en entier. Au Liban, on mange les tripes, on mange mais tu manges tout. Encore un peu, tu mangeais la fourrure. On utilise la fourrure pour autre chose, bien sûr. Mais ça, c'est ça la responsabilité. La responsabilité, c'est manger saisonnier. Est-ce que tu as le choix? Il n'y a aucune autre technique et tu manges avec les saisons. Et pas seulement ça. Tu manges avec les saisons aussi. En hiver, on fait beaucoup de... Pendant les bonnes saisons, on fait beaucoup, beaucoup de réserves alimentaires. Et on appelle ça la monnaie. Donc, les conserves alimentaires ont un nom. C'est la monnaie. Donc, tu dois avoir du blé, des légumineuses, des pois chiches, des haricots rouges. Tu dois faire des pickles, des confitures. Tu dois confire de la viande, comme on confie le canard. Donc, c'est moitié gras, moitié... Parce que tu as la viande grasse à la fin de l'été. Donc, et qu'est-ce que tu vas manger en hiver? Donc, tu as tout chez toi à la maison. Pendant 6 mois, tu peux même ne pas sortir. Tu habites à Béchéré avec 6 mètres de neige, tu vois. Tu peux même pas sortir de chez toi à la maison. Les maisons paysannes étaient très, très simples. C'était juste une pièce. Le matin, on y habitait. Le soir, il y avait comme une niche dans le mur où tu enlevais les matelas, tu les mettais par terre. Ça devient la chambre à coucher. À côté, il y a une chambre pour le bétail, mais il y a une chambre très importante dans la maison qui est la chambre de la monnaie. Et même quand j'étais enfant, mon père allait, par exemple... On achetait des pommes de terre pour l'année entière, des oignons pour l'année entière, de l'ail pour l'année entière. Ma mère faisait des confitures. Mon père allait acheter dans les régions d'olives, de bonnes olives. Il y a bien sûr toujours deux écoles. Les meilleures sont au sud ou au nord. Mon père allait dans le Koura au nord. Il achetait de l'huile d'olive. On avait la perception que les récoltes étaient bonnes une année sur deux. Donc, il fallait acheter pendant cette bonne année de l'huile d'olive pour 2 ans. mon père allait acheter les olives dans un jardin, dans des champs, aller dans la, comment on dit là, où on presse les olives, on fait l'huile.
Oui, le moulin.
Frantoio, dans le moulin. Et il rentrait à la maison avec de l'huile d'olive pour deux
ans. Mais c'était une énorme quantité,
on
n'allait
pas au Monoprix pour acheter une bouteille d'huile d'olive. Et j'ai toujours les jarres en terre cuite. J'ai 54 ans, j'en ai pas 150. J'ai toujours des jarres où on venait verser l'huile d'olive. Chaque fois qu'on avait besoin d'huile d'olive, on descendait dans la chambre à provision, la chambre à monnaie, hôtel monnaie, pour remplir la bouteille d'huile d'olive. Voilà. Donc, bien sûr que c'est responsable. Donc, pour toutes ces raisons-là, on mange de saison, on mange l'animal entier, il y a zéro déchet. Dans la maison de mes parents, quand j'étais enfant, très très jeune, il n'y avait pas de poubelle. On habitait dans un village qui s'appelait Jrita. Mais je te raconte des choses, je me rappelle, c'est comme la préhistoire quand même. Il n'y avait pas de poubelle. Combien de poubelles tu descends par jour, tous les jours ? Il n'y avait pas de poubelle. On avait un petit jardin, on avait des poules, toute la bouffe allait aux poules, et on avait un petit trou dans le jardin, on ne faisait même pas de compost, on ne savait même pas ce que c'est. Et on avait un petit trou où quand il y avait des cans, des trucs en fer, ou je sais pas, des choses comme ça, il n'y avait pas d'emballage. Hein. On brûlait ça genre une fois par mois, ça faisait un petit truc qu'on brûlait, tu vois, et les cendres, elles allaient dans le jardin. Donc oui, bien sûr, c'est responsable.